Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, le cessez-le-feu avec l'Iran est terminé, a annoncé le président américain Donald Trump, après de violents échanges de frappes entre les deux camps, tout en laissant la porte ouverte à la poursuite des discussions. Emmanuel Macron, qui était en visite à Damas, a affiché son soutien au nouveau pouvoir syrien pour mener à bien la difficile transition politique en Syrie. Une visite marquée aussi par la signature d'accords économiques. Et Marine Le Pen sera bien candidate à l'élection présidentielle malgré sa condamnation hier par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Emmanuel Macron a donc été en début de semaine le premier dirigeant d'une puissance occidentale à se rendre en Syrie. Cela depuis la chute du régime Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed El-Sharry. Le chef d'État a affiché son soutien au nouveau pouvoir syrien pour mener à bien la difficile transition politique en Syrie après deux attentats à proximité de l'hôtel où il venait de passer la nuit à Damas et qui ont fait 18 blessés. Je vous laisse écouter le président français.
Au-delà des choix que nous avions déjà faits ces derniers mois, de nommer de part et d'autre nos ambassadeurs, de consolider tout cela, d'être des acteurs de cette ère nouvelle et d'agir ensemble, défendant chacun nos intérêts, mais avec détermination et volonté en effet de construire un partenariat nouveau entre nos deux pays, fort aussi de leur histoire, et un partenariat nouveau entre la région et l'Europe. Défendant cette paix et cette sécurité pour tous à laquelle nous croyons et cette histoire de souveraineté que vous portez aujourd'hui pour la Syrie et à laquelle nous croyons pour toute la région. La France, en tout cas, vous le savez, est à vos côtés.
Le chef d'État français Emmanuel Macron. Une visite marquée par la signature d'accords économiques. Le président français avait préparé le terrain avec une série de rapprochements politiques. Il avait reçu le président syrien à l'Élysée en mai 2025. Ahmed El-Sharry qui a affirmé hier qu'il entendait faire de la France le premier partenaire commercial de la Syrie. Alaa Kodmani, grand reporter à Libération et spécialiste de la Syrie, s'est tout récemment rendu dans plusieurs villes du pays.
C'était le dernier pays européen qui a tenu le plus fermement sa position contre la dictature d'Assad et pour le soutien à l'opposition syrienne, si bien que la France s'est retrouvée en très bonne position et a voulu capitaliser un petit peu sur cette position de intraitable alors que d'autres pays européens étaient en train de normaliser avec le régime Assad pour s'engager tout de suite avec ce nouveau pouvoir malgré toutes les réserves que les uns et les autres pouvaient avoir, sachant d'où viennent les nouveaux dirigeants syriens, c'est-à-dire d'un mouvement djihadiste qui s'est reconverti ou s'est un petit peu recyclé différemment.
Il est possible de dire que la France récolte aujourd'hui les fruits de cette position que vous évoquez ?
Il est certain que les fruits comptent et que je crois que pendant la visite d'ailleurs, même le président syrien Chara a souligné la position de la France qui est restée en soutien à la révolution syrienne et à l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Mais aussi, la France s'est engagée très vite. Puis, comme vous l'avez mentionné, Emmanuel Macron a été le premier dirigeant européen occidental à recevoir le nouveau président syrien à l'Élysée en mai 2025. Donc il y a vraiment eu tout de suite une volonté de s'engager et de normaliser les relations avec la Syrie, avec les Syriens.
Ahmed El-Sharry, le président syrien, a besoin aussi d'être ainsi, si je puis dire, normalisé.
Il a besoin, cela dit, il ne faut pas oublier qu'il a quand même été bien reçu à l'international, notamment aux États-Unis. Je crois qu'il a fait deux ou trois visites à Washington, qu'il a rencontré Trump également ailleurs, en Arabie Saoudite et ailleurs. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, la Syrie a besoin de tous les soutiens internationaux. Bon, évidemment, ils ont les soutiens régionaux, hein, que ce soit les pays du Golfe arabe ou la Turquie. Le pouvoir syrien actuel semble vraiment vouloir avoir des relations pacifiée et plutôt constructive avec le plus grand nombre de pays qui peuvent lui apporter ce soutien.
Alaa Khodmani, grand reporter à Libération et spécialiste de la Syrie, au micro de François-Xavier de Calonne. On reste au Moyen-Orient. Le cessez-le-feu avec l'Iran est terminé, a annoncé le président américain Donald Trump, après de violents échanges de frappes entre les deux camps, tout en laissant la porte ouverte à la poursuite des discussions. Les États-Unis ont lancé hier une série de frappes contre l'Iran et rétabli leurs sanctions économiques sur le pétrole iranien. Ils affirment répondre aux tirs sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Les deux camps s'accusent donc de violer leur protocole d'accord. Les gardiens de la révolution iranien ont annoncé aujourd'hui avoir frappé 85 installations sur des bases militaires des États-Unis, au Koweït et à Bahreïn. Ces nouvelles frappes compliquent encore davantage des négociations déjà tendues pour mettre fin à la guerre, a déploré la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Et conséquence de la reprise des hostilités, les cours du pétrole bondissent aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, l'archevêque de Rabat, d'origine espagnole et qui figurait parmi les cardinaux en vue pour succéder en 2025 au pape François, a annoncé hier se mettre en retrait après des accusations de violences sexuelles et des comportements inappropriés. En France, nous l'avons évoqué dans les titres, Marine Le Pen sera bien candidate à l'élection présidentielle. Une annonce qu'elle a faite hier au JT de 20h de TF1. Ceci malgré sa condamnation hier après-midi par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont un enferme sous bracelet électronique, ainsi qu'à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. La chef de file du Rassemblement National compte se pourvoir en cassation, ce qui suspend, selon elle, le port du bracelet électronique. Je vous laisse l'écouter.
Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Moi, je tiens que nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne présidentielle. Vous savez que nous avons offert aux Français un binôme que je crois complémentaire, équilibré, cohérent, solide. Et c'est ensemble donc que nous irons convaincre les Français que ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence de décisions toxiques, néfastes, qui ont été prises par d'autres, et que des bonnes décisions peuvent changer leur avenir.
Marine Le Pen et un pourvoi en cassation qui n'efface pas la condamnation, explique Ludovic Fria, président de l'Union syndicale des magistrats. Il était invité ce matin chez nos confrères de RMC.
On est sur une condamnation qui a été rendue en appel. Une condamnation, effectivement, pour des faits qui sont graves au terme de notre code pénal, puisque c'est une infraction qui est punie de 10 ans d'emprisonnement. C'est le maximum encouru en matière correctionnelle. Elle a fait un pourvoi en cassation, ce qui est parfaitement son droit, hein, c'est légitime. Ceci étant, ce pourvoi n'efface pas la décision de la cour d'appel qui a été rendue hier. Il ne fait qu'en suspendre les effets dans l'attente. Le point en cassation, ça ne fait pas rejuger toute l'affaire dans les faits, dans le fond du dossier, comme un appel. C'est uniquement sur le droit, sur des questions de droit. Là, en l'espèce, on peut penser que l'action de droit soulevée, c'est l'article du code de procédure pénale qui est appliqué aux personnes qui ont été condamnées, ne serait pas applicable en matière européenne. En fait, grosso modo, ce que soutient Marine Le Pen et ses avocats, c'est que cet article ne joue que dans le cadre national, on va dire que pour les élus ou les responsables locaux. Il me semble avoir entendu le procureur général près de la Cour de cassation dire « nous nous mettons en situation de pouvoir juger ceci assez rapidement », c'est-à-dire début 2027, effectivement, en janvier-février.
Ludovic Fria, président de l'Union syndicale des magistrats. On va parler maintenant d'une fracture hier soir au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, comme rarement observée auparavant. La raison, l'adoption d'une loi qui approuve la présomption d'usage légitime des armes pour les policiers et les gendarmes. Votée à la grande majorité, le texte sera examiné au Sénat prochainement. Clara Dubanché, pourquoi cette loi divise-t-elle autant ?
313 voix contre 199, avec une très large majorité des députés du camp gouvernemental et d'une alliance Rassemblement National UDR, le texte est adopté. Proposé par le député républicain Éric Pauget, il prévoyait initialement la présomption de légitime défense. Entre-temps, il est réécrit par le gouvernement. Le texte prévoit désormais que tout membre des forces de l'ordre qui ferait usage de son arme sera présumé avoir agi dans le cadre de la loi. Alors, pour ses partisans, cette loi permet surtout aux autorités de ne plus être automatiquement suspectées après avoir utilisé leur arme.
Et quelles ont été les réactions de la gauche ?
Eh bien, la gauche s'est majoritairement opposée. Par exemple, l'écologiste Pouria Amirshahi s'insurge à la tribune. Pour le député, ce texte ne protège pas les bons policiers, il abrite les autres. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, a lui accusé le gouvernement d'accorder une victoire symbolique au RN, car la proposition de loi introduite dans le débat par le Front National était inscrite dans le programme présidentiel de Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans. Les collectifs de victimes de tirs de policiers dénoncent un permis de tuer et à leur côté, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, accuse le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, d'avoir voulu passer en force.
Monsieur le ministre, vous êtes en train d'utiliser l'article 44 de la Constitution pour essayer de passer en force sans aucun débat, sans aucune discussion, sans aucune audition. Vous n'avez auditionné personne. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutées. Vous ne les avez même pas entendues. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez même pas reçues. Franchement, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Au moins, recevez-les. Il y a 325 000 personnes qui ont signé une pétition. Au moins, entendez-les, écoutez-le, au lieu de passer en force comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui.
La réaction de Manuel Bompard hier à la tribune de l'Assemblée, et ce sont les cris des collectifs de victimes scandant « pas de justice, pas de paix » qui auront clôturé la séance après sa suspension.
Merci Clara Dubanchet pour toutes ces précisions. On va parler météo maintenant avec une chaleur qui gagne du terrain et des vents renforcés. Ce mercredi s'annonce à très haut risque sur le front des incendies dans la moitié sud du pays. 67 départements sont placés en vigilance orange canicule à partir de midi par Météo France qui prévoit un épisode caniculaire sévère et durable qui peut se prolonger très probablement jusqu'en fin de semaine, voire au-delà et s'étendre aux régions Grand Est et Franche-Comté. Et enfin, un point sur le Mondial 2026. Le tableau des quarts de finale est désormais complet. Les deux derniers huitièmes de finale se sont disputés hier soir avec une fin de match complètement folle entre l'Égypte et l'Argentine victorieuse et une qualification historique de la Suisse. Les explications avec vous, Salma Dakhlaoui.
Oui, Nawel, revenons sur les rencontres d'hier soir. L'Égypte a été éliminée par l'Argentine sur le score de 3-2. Les Pharaons avaient pourtant pris une sérieuse avance sur la qualification. Il dominait le match grâce à des buts de Yasser Ibrahim et Mustapha Zico. Lionel Messi avait lui vu son pénalty repoussé en première période par Mustapha Chaubert. Les Égyptiens se sont également vus refuser un troisième but après intervention de la VAR. Menés 2-0 jusqu'à la 79e minute, l'Argentine a finalement renversé la rencontre. Cristiano Ronaldo a ouvert le score, puis Lionel Messi a égalisé à la 83e minute, avant qu'Enzo Fernandez n'offre la qualification aux siens dans le temps additionnel. Un scénario cauchemardesque pour les pharaons. À l'issue de ce match, la Fédération égyptienne de football a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la FIFA. Elle conteste plusieurs décisions arbitrales et demande que l'arbitre français François Le Texier ne soit plus désigné pour le reste de la compétition. Dans l'autre huitième de finale, la Suisse a décroché sa qualification face à la Colombie à l'issue de la séance de tirs au but après un match de nul 0-0 au terme du temps réglementaire et de la prolongation. C'est une qualification historique pour la Suisse qui n'avait plus atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde depuis 1954, soit il y a 72 ans et qui affrontera donc l'Argentine en quart. Le Maroc, lui, demeure désormais le seul pays africain encore en lice dans ce mondial. Les Lions de l'Atlas retrouveront les Bleus ce jeudi avec un coup d'envoi à 22h. France-Maroc, une affiche tant attendue, Nawel.
Merci Salma Dakhlaoui. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.